France Culture.
Information présentée aujourd'hui par Julie Paco. Bonjour Julie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. De quelle marge de manœuvre disposeront les Européens à Genève? Des responsables français, allemands, britanniques et italiens doivent participer aux discussions entre Ukrainiens et Américains sur la fin de la guerre aujourd'hui dans l'espoir de faire entendre leurs alternatives au plan Trump. Après l'échec du service national universel, le service militaire devrait faire son retour. Le gouvernement y travaille, confirme ce matin le ministère des Armées. Un service militaire de 10 mois sur la base du volontariat. Pas de révolution sur les vacances scolaires, mais des semaines de 5 jours et des apprentissages réaménagés. La Convention citoyenne sur les temps de l'enfant s'accorde sur une vingtaine de préconisations adoptées ce matin. Décryptage à suivre et analyse de notre invité Stéphane Bonnery, professeur en sciences de l'éducation à l'Université Paris 8. Branle-bas de combat des Européens à Genève qui vont tenter d'infléchir le plan américain visant à mettre un terme à la guerre en Ukraine, plan qui reprend plusieurs exigences de la Russie et autant de lignes rouges pour les Européens. Paris, Londres et Berlin ont donc dépêché leurs conseillers à la sécurité nationale pour participer aux discussions entre Ukrainiens et Américains. Bonjour Jérémy Lanche.
Bonjour.
En direct de Genève pour France Culture, des discussions sur ce plan donc que l'administration américaine présente désormais comme un cadre pour des négociations.
Un cadre ou un corset étouffant plutôt, en jugé par les 28 points soumis par Donald Trump à l'Ukraine. Les régions de Luhansk et Donetsk cédées à la Russie, une grande partie de Kherson et Zaporijja également, dont la centrale du même nom fournira 50% de sa production à Moscou, l'interdiction de rejoindre l'OTAN et l'armée ukrainienne forcée de maigrir de 200 000 hommes. La mission du bras droit de Volodymyr Zelensky, Andrei Yermak, sera donc d'amender au maximum l'offre initiale pour ne pas donner l'impression d'une capitulation, tout en conservant l'appui officiel de Washington. Donald Trump a depuis laissé entendre que l'offre n'était pas forcément à prendre ou à laisser, mais la pression est, c'est vrai, maximale sur la délégation ukrainienne qui est arrivée hier soir à Genève.
Et qui d'autre participe aux discussions, Jérémy? Est-ce qu'on en sait plus sur le déroulement de cette journée?
Alors, on sait que côté américain, le secrétaire d'État Marco Rubio atterrit ce matin à Genève. Normalement, Steve Witkoff, l'omniprésent émissaire diplomatique de Donald Trump, est aussi présent, tout comme le secrétaire à l'armée Dan Driscoll, de plus en plus mis en avant par l'administration ces dernières semaines. Point d'interrogation, en revanche, sur le format des discussions. Plusieurs pays européens, dont la France, ont envoyé, vous l'avez dit, leur conseiller à la sécurité nationale à Genève, mais on ne sait pas s'ils vont participer directement aux discussions ou bien se réunir séparément avec la partie ukrainienne. Pour le moment, c'est silence radio dans les chancelleries.
Jérémy Lanche, en direct de Genève. C'est pour parler sur la fin de la guerre. Intervient en tout cas au moment où la Russie poursuit son avancée dans l'est de l'Ukraine. Elle revendique ce matin la prise de 3 nouvelles localités, notamment dans la région de Donetsk. Alors face à cette guerre en Ukraine suite à l'invasion russe il y a 4 ans, Emmanuel Macron s'apprête à annoncer une nouvelle formule du service militaire volontaire. C'est la Tribune dimanche qui le révèle. Après l'échec du service national universel, le chef de l'État devrait dévoiler jeudi un nouveau cadre pour servir au sein de nos armées, comme il le promettait déjà en juillet dernier. Éric Bégala.
Ce service militaire revisité prendra le nom de service national volontaire et reposera, comme son nom l'indique, sur du volontariat. Mais il s'agira bien d'un service militaire avec une formation au métier des armes sur 10 mois, une formation rémunérée. La ministre déléguée aux armées, Alice Ruffaut, confirmait ce matin sur l'antenne de France Info que ce projet de nouveau service national était bien dans les tuyaux.
Je confirme que depuis le 13 juillet dernier, quand le président s'est exprimé à l'hôtel de Brienne, il a demandé au ministère des armées de travailler sur un cadre d'engagement renouvelé. Et donc oui, je confirme qu'il y a des travaux en ce sens. Vous avez dit, vous avez parlé de volontariat. Je pense que c'est effectivement un mot-clé. Vous le savez, dans plusieurs pays européens, des réflexions là-dessus. Tout le monde y travaille. Donc nous aussi, on y travaille.
Objectif de ce nouveau service national, à court terme, former tous les ans 10 000 jeunes Français volontaires et majeurs au maniement des engins ou des armes, y compris les plus modernes, employés sur le champ de bataille. On pense aux drones de combat, par exemple. Mais aussi mettre à profit pour les armées le gisement de compétences qui existe au sein d'une classe d'âge.
On constate, qu'il y a quand même une vraie volonté d'engagement. Et la deuxième chose qu'on observe, c'est que face à la conflictualité qui est la nôtre, il y a beaucoup de compétences qui sont requises dans beaucoup de cadres et qu'on doit absolument les utiliser. Une de nos très grandes forces, c'est qu'on a une jeunesse qui a des compétences technologiques qui doivent absolument pouvoir trouver un cadre pour notre défense.
Ces nouveaux conscrits n'auront pas vocation à être engagés dans des opérations militaires, mais plutôt à intégrer, une fois leur service terminé, les rangs de la réserve opérationnelle. Restera encore à trouver le budget pour lancer ce service national revisité. À l'heure des discussions budgétaires compliquées pour 2026, ce n'est pas gagné.
Une semaine de 5 jours à l'école avec de profonds réaménagements des apprentissages. Préconisation de la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant qui remet donc son rapport aujourd'hui. 133 citoyens tirés au sort se sont réunis durant 6 mois, auditionnant des experts mais aussi des enfants pour élaborer 20 propositions soumises au vote ce matin. Bonjour Lou Momège.
Bonjour Julie.
En direct du CESE, le Conseil économique, social et environnemental à Paris, ces propositions ont été largement adoptées ce matin, Lou.
Oui, 95% des votants ont approuvé le rapport, rapport qu'ils ont élaboré au cours de 5 mois de travail collectif avec une conclusion principale. Les emplois du temps des enfants sont aujourd'hui beaucoup trop calqués sur les impératifs des adultes, d'où la nécessité de réaménager afin de s'adapter à leur rythme biologique. La Convention citoyenne plaide pour une journée de 5 jours pleins, des journées qui commenceraient à 9h pour les collégiens et lycéens avec des cours de 45 minutes maximum et puis surtout des après-midi dédiés aux activités extrascolaires en finissant à 15h30 au collège et 16h30 au lycée. Jessica fait partie de la Convention citoyenne, cette chargée de projet dans la fonction publique à Marseille, est plutôt satisfaite du rapport et espère qu'il se concrétisera.
Je dirais pas que je suis certaine que toutes les propositions vont être prises en compte telles quelles et adoptées. Mais je pense que si déjà ce rapport et ces propositions sont entendues, lues et expliquées, répercutées quelque part, ben, ce sera déjà un très bon point. Je pense qu'il faut savoir s'inscrire dans le temps long. Donc peut-être qu'on va commencer par une petite mesure qui va nous sembler être peut-être pas grand-chose, mais que si ça prend, ben, ça incitera les pouvoirs publics à reprendre d'autres propositions. Donc je pense que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est cette idée de temps long.
Les mesures proposées sont nombreuses, hein, sans toucher au système de vacances actuel. Eh bien, la Convention citoyenne propose quand même, par exemple, de regrouper les 3 zones en seulement 2. Et au-delà des emplois du temps à proprement parler, eh bien, les citoyens estiment qu'il y a tout un modèle scolaire à revoir, notamment en réduisant le nombre d'enfants par classe ou en revalorisant les salaires des métiers de l'éducation.
Lou Momège, en direct du CESE, avec les moyens techniques de Jérémy Thuil. Et bonjour Stéphane Bonnery.
Bonjour.
Vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'Université Paris 8. Alors que pensez-vous de ces préconisations de la Convention citoyenne ?
Je suis très inquiet en réalité. Je me demande même si notre pays n'est pas en danger. Parce que les citoyens sont manifestement de bonne volonté, mais pour avoir regardé la façon dont ils travaillaient, un temps très court, beaucoup plus court que pour les deux précédentes conventions citoyennes, des documents biaisés et affligeants qui leur ont été fournis, et puis un recadrage d'une main de fer entre la troisième et la quatrième séance pour guider leur débat vers les conclusions qu'on voulait leur imposer. Tout ça amène, au-delà de la méthode, les conclusions sont biaisées et empêchent le débat sur la question.
Qu'est-ce qui vous fait peur, finalement ? C'est quoi, la réduction du temps d'apprentissage ?
Alors, concrètement, ce qu'on a oublié de dire... D'abord, ce qu'on a oublié de leur dire et ce que ça propose. On a oublié de leur dire que les élèves français, depuis 20 ans, ont perdu plusieurs années de scolarité. On a supprimé la classe de toute petite section de maternelle massivement, un an de moins. On a supprimé les samedis matins, qui, sur l'ensemble de la scolarité primaire, équivaut à une année scolaire. Donc déjà, en sortant du CM2, ils ont 2 ans d'école de moins. Au collège, on a supprimé, additionné sur les 4 ans de collège, l'équivalent d'une année de cours, avec à la place des contenus flous, interdisciplinaires. Mais qu'est-ce que c'est que l'interdisciplinaire quand on a fait moins de disciplines ? Qu'est-ce que c'est que du soutien en classe entière ? En fait, c'est que des trucs improbables. Et dans la voie professionnelle, en supprimant le BEP, en réalité, les élèves qui vont au bac pro ont perdu un an de scolarité. Enfin, les élèves français ont perdu un temps de cours fou. Et donc là, la Convention propose de réduire la semaine en primaire et collège de 24 heures actuellement, seulement à de l'enseignement le matin, ce qui, chez moi, 5 x 3, 15, si je compte bien. Donc, on perd encore 9 heures de cours par semaine.
Oui, vous vous dites qu'il faudrait au contraire augmenter le temps scolaire.
On ne peut pas d'un côté dire PISA mesure le niveau des élèves français et montre la baisse inquiétante. Nous, on voit arriver à l'université des générations entières qui ont eu moins d'heures de cours et qui ne sont pas préparées. Donc on prépare un avenir inquiétant pour notre pays.
Et parmi les recommandations de cette convention citoyenne, on a des activités sportives et culturelles l'après-midi, des apprentissages pratiques aussi, comme le bricolage et la cuisine. Vous dites que finalement, ce n'est pas le rôle de l'école.
Mais c'est surtout que ça pourrait venir en plus de l'école. Sauf que ce que ça prépare, c'est la privatisation de l'enseignement physique et sportif, la privatisation des enseignements artistiques. Aujourd'hui, il y a des cours. Donc, on prévoit de les supprimer, ces cours, et de les renvoyer au soi-disant libre choix des parents. Mais à qui fera-t-on croire que dans les milieux et les familles les plus rigoristes, on va faire piscine avec les filles? À qui fera-t-on croire que tous les enfants pratiqueront les beaux-arts, un certain nombre de choses? Ça veut dire que on va préparer une génération où le poids des déterminismes sociaux et culturels des familles va prévaloir sur ce qu'ils vont rencontrer.
Bah alors justement, est-ce que finalement enseigner des apprentissages, de savoir-faire, de savoir-être, comme le bricolage, la cuisine, est-ce que c'est pas finalement un moyen aussi de transmettre une culture commune que vous défendez à l'école?
Alors, c'est intéressant, parce que vous avez remarqué le changement de mot, c'est plus enseignement, c'est activité. Or, il y avait une discipline qui existait, qui s'appelait technologie, où on apprenait à réfléchir sur les outils techniques. Et c'était pas du bricolage pour s'amuser pratique. Pourquoi M. Macron l'a supprimé, la discipline technologie? C'est bien pour empêcher de réfléchir sur la technique. Et là, il s'agit de conditionner les gens à faire des choses sans réfléchir à ce qu'ils font. En fait, derrière il y a à la fois un projet économique de réduction des dépenses publiques pour l'école publique, parce qu'il y a beaucoup d'argent public qui va à l'école privée, et simultanément, il y a un projet politique de ne plus amener les gens à réfléchir sur ce qu'ils font, mais simplement obéir aux objets que le marché leur propose.
Les temps de l'enfant ne se résument pas à une question d'horaire ou de calendrier, ils traduisent des choix collectifs de société. Ça, c'est les citoyens de la Convention citoyenne qui le disent. Ils redoutaient, lors de cette Convention citoyenne, finalement, la focalisation du rapport sur la question scolaire au détriment d'autres enjeux, comme la lutte contre les violences, l'accompagnement de la parentalité. Est-ce que vous partagez leurs craintes ?
En fait, ils ont exprimé des inquiétudes qui étaient très légitimes. C'est pour ça que le livre que je viens de sortir, et ils ont fait exprès de ne pas m'inviter, je vous le dis, s'appelle « Vraies questions et faux débats ». Les citoyens ont exprimé des vraies inquiétudes, mais la façon dont ils ont été pilotés les a amenés à faire des choses contraires. Ils disent que les enfants passent trop de temps devant l'écran. Conclusion, ils veulent les renvoyer à la maison plutôt l'après-midi. Donc, en fait, c'est complètement contradictoire. Parce que si on connaît un peu ce qu'est la vie dans certains quartiers populaires, les parents protègent les enfants des mauvaises fréquentations en gardant les enfants à la maison. Ils les gardent comment à la maison? Avec les écrans. Donc en fait, depuis 50 ans, ce sont les mêmes faux arguments qu'on met dans la tête des gens, sans écouter les chercheurs, pour imposer quoi? Une réduction des dépenses publiques d'école et que chacun soit renvoyé à ses déterminismes sociaux.
Des arguments qu'on retrouve donc dans votre ouvrage « Temps de l'enfant, rythme scolaire, vraies questions et faux débats », publié aux éditions de la Fondation Gabriel Péri. Merci beaucoup Stéphane Bonnery.
Merci.
Il était l'un des tout derniers résistants. Robert Birenbaum est mort hier à l'âge de 99 ans, membre des Jeunesses communistes. Il entre en résistance en 1942, à l'âge de 16 ans, et rejoint le groupe des francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre émigrée, compagnon de route de Missak Manouchian. Homme de dévouement, il fut toute sa vie fidèle à cet engagement initial. Il est et demeurera un exemple pour tous. Salut Emmanuel Macron. Créé en 1982 pour soutenir la scène française, le Centre National des Arts Plastiques est sur la sellette. Dans un rapport publié cette semaine, la Cour des comptes recommande en effet sa suppression d'ici 2030, lui reprochant de ne pas suffisamment remplir ses missions, notamment celle de diffuser les œuvres acquises, des charges de fonctionnement excessives ou encore des manquements aux règles déontologiques concernant les acquisitions. Un rapport sévère qui suscite l'incompréhension des 85 agents. Par la voix de leurs représentants syndicats, ils dénoncent un rapport biaisé et politique, Chloé Martin.
C'est un véritable acharnement. Voilà les mots qu'emploie Sylvana Régiardo, représentante du personnel et secrétaire générale adjointe du SGAC-CGT, le syndicat des affaires culturelles. Car avant même les conclusions du rapport, c'est l'audit démarré en septembre 2024 qui a été mal perçu par les agents.
Ils ont été surpris de certaines questions relatives à la définition de la scène française, restreinte à la seule nationalité, alors qu'elle est constituée d'étrangers qui résident en France, d'artistes qui exposent régulièrement sur la scène française. Et ils ont été choqués manquer de sous-entendus concernant un artiste transgenre où il leur a été demandé si c'était la raison pour laquelle les œuvres de cette personne avaient été acquises.
Des questions posées d'après elle par le rapporteur du texte Julien Aubert, qu'elle estime politiquement orienté. L'ex-député LR du Vaucluse et ancien proche d'Éric Ciotti réfute, lui, tout mélange des genres dans sa réponse à Libération. Mais pour Sylvana Régiardo, cela explique la principale conclusion du rapport, à savoir la suppression du CNAP, disproportionnée selon elle.
Effectivement, il peut y avoir un diagnostic par rapport à l'établissement. Il a peu de moyens, c'est le plus petit des établissements publics, mais précisément, il faut le renforcer. Si on veut faire la promotion de la création des arts visuels, c'est fondamental qu'il y ait un établissement qui en ait la charge.
Et c'était le sens du déménagement prévu à Pantin. Un seul et même site en cours de construction pour stocker les 108 000 œuvres de la collection du CNAP et faciliter ainsi le travail des agents. L'installation est prévue en 2027 pour un coût avoisinant les 100 millions d'euros. Son ministère de tutelle, celui de la culture lui-même, apporte son soutien au Centre national d'art plastique, s'appuyant sur un autre rapport publié en juillet 2025. Il veut en faire un chef de file de la scène artistique française.
Chloé Martin, un mot de météo avec le retour d'un temps moins froid mais automnal et une nouvelle perturbation qui arrive, qui apporte de la pluie sur la quasi-totalité des régions. Les températures vont de 3 à 12 degrés sur la moitié nord, 5 à 16 sur la moitié sud. C'est la fin de ce journal préparé avec Brice Garcia et Jean-Guy Limège à la technique.